Les 39 marches. Chapitre 6. L'aventure de l'archéologue chauve. Abrité par un rocher, je passais la nuit sur le versant de la montagne où la bruyère s'épanouissait, abondante et souple. Un gîte plutôt froid, car je n'avais ni veste ni gilet. Ceci se trouvait chez Turnbull, tout comme le petit calepin noir de Scudder, ma montre et, pire que tout, ma pipe et ma blague à tabac. Je n'avais sur moi que l'argent que j'avais retiré de ma ceinture, ainsi qu'environ une demi-livre de biscuits au gingembre dans la poche de mon pantalon. La moitié de ces gâteaux me servit de souper, et, en m'enfouissant profondément dans la bruyère, je réussis à me réchauffer un peu. J'avais repris courage, et commencé à goûter cette partie de cache-cache endiablée. Jusque-là, une miraculeuse chance m'avait accompagné. Le laitier, l'aubergiste lettré, Sir Harry, le cantonnier, ce crétin de Marmy, tout cela était l'œuvre d'une bonne fortune inespérée. Ces premiers succès me donnèrent, en quelque sorte, l'impression que je finirais bien par m'en tirer. Mon principal tourment était cette fin abominable. Quand un juif de la City se suicide d'un coup de revolver et qu'une enquête est faite, les journaux racontent toujours que le défunt avait fait un copieux repas. S'il m'arrivait de me casser le cou dans un trou marécageux, je me fis la réflexion qu'on ne pourrait en dire autant pour moi. Je m'étais mis à la torture, car les gâteaux au gingembre n'avaient fait qu'accentuer la sensation de faim et réveiller le souvenir de toute cette nourriture dont j'avais fait si peu cas à Londres. Ainsi, les saucisses croustillantes de Paddock, ces émincés de lard savoureux, ces œufs pochés moelleux, combien de fois avais-je fait le difficile? Et ces côtelettes, spécialité du club, ce jambon merveilleux, figurant au buffet froid, tout mon ventre les réclamait. Mon désir hésitait entre toutes les variétés existantes de comestibles pour se fixer en définitive sur une épaisse tranche de chateaubriand accompagnée d'un demi de bière brune, suivie d'un Welsh rabbit. Dans l'espérance vaine de ces délices, je m'endormis. Je m'éveillai une heure avant l'aube, engourdi et frigorifié. Il me fallut un moment pour me rappeler ma situation, car épuisé, j'avais dormi d'un pesant sommeil. Je devinai tout d'abord à travers une dentelle de bruyère le ciel bleu pâle, puis un grand pan de montagne, et enfin mes propres bottines correctement aligné devant un buisson de ronces. Je m'accoudai et jetai un coup d'œil dans la vallée. Ce simple regard me remit immédiatement les idées en place et me fit lasser en toute hâte mes bottines. À moins d'un quart de mile, il y avait là des hommes répartis en éventail à flanc de colline en train de battre la bruyère. Marmy n'avait pas été long à vouloir se venger. Je quittai ma terrasse en rampant et me glissai derrière un rocher. Puis, de là, je gagnai une crevasse peu profonde qui coupait en billets le flanc de la montagne. Cette crevasse me conduisit bientôt dans l'étroite gorge d'un torrent par laquelle je me hissai jusqu'au sommet de l'arête. De là, je regardai en arrière et vis que l'on ne m'avait pas encore aperçu. Mes ennemis battaient méthodiquement le versant de la montagne et remontait peu à peu. Caché derrière la ligne d'horizon, je courus, l'espace peut-être d'un demi-mile, jusqu'au moment où je m'estimais parvenu à hauteur de l'extrémité supérieure du ravin. Alors je me montrai et fus découvert à l'instant même par l'un des rabatteurs qui avertit ses collègues. J'entendis des appels et vis la ligne des rabatteurs changer de direction. Je fis semblant de battre en retraite au long de la crête, mais en réalité je revins sur mes pas, et en 20 minutes, je fus de retour à l'endroit où j'avais dormi. De ce poste, j'eus la satisfaction de voir la poursuite, complètement égarée sur une fausse piste, refluer sur la montagne jusqu'au plus haut du ravin. J'avais devant moi plusieurs chemins possibles, et je me décidai pour une arête qui faisait un angle avec celle où je me trouvais, et qui, par conséquent, mettrait bientôt un profond ravin entre moi et mes ennemis. L'exercice m'avait réchauffé le sang, et je commençais à beaucoup m'amuser. Sans interrompre ma course, je déjeunais des miettes de ce qui me restait des biscuits au gingembre. Je connaissais très mal le pays et n'avais pas idée de ce que j'allais faire. Je me fiais à la vigueur de mes jambes, mais je me rendais compte que ceux qui me poursuivaient connaissaient fort bien la topographie des lieux et que mon ignorance me handicapait fortement. Je voyais devant moi un océan de montagnes s'élevant très haut dans le sud, mais vers le nord s'abaissant par vastes ondulations entrecoupées de vallées larges et peu profondes. L'arête que j'avais choisie s'abaissait un mile ou deux plus loin vers une lande qui formait comme une sorte de poche entre les hauteurs. Cette direction me semblait aussi indiquée qu'une autre. Mon stratagème m'avait procuré une bonne avance de quelques 20 minutes, et j'avais déjà mis derrière moi la largeur d'un ravin lorsque je vis surgir les premières têtes de mes poursuivants. La police était sans doute renforcée de compétences locales, car les hommes que je pus voir avaient l'apparence de bergers ou de gardes-chasse. Ils poussèrent une clameur en m'apercevant, et je les saluai de la main. Deux d'entre eux plongèrent dans le ravin et commencèrent à escalader mon arête, tandis que les autres restaient de l'autre côté de la montagne. Je m'imaginais participer à ce jeu de collégiens qu'on nomme la chasse aux lièvres. Mais le jeu ne tarda pas à tourner à mon désavantage. Ces gars derrière moi, des hommes robustes, couraient sur leur terre natale. En me retournant, je vis que 3 hommes venaient sur moi en droite ligne, et je supposais que les autres faisaient un détour afin de me couper le chemin. Mon manque de connaissance des lieux risquait fort de causer ma perte. Je résolus de quitter ce labyrinthe de ravins pour atteindre la poche de lande que j'avais aperçue quelques instants plus tôt. Pour cela, je devais augmenter mon avance afin de me débarrasser d'eux. Je crus la chose réalisable à condition de trouver le terrain propice. À couvert, j'aurais essayé la technique de la chasse d'approche, mais sur ces pentes dénudées, on eût distingué une mouche à 10 pas. Mon seul espoir tenait à la vigueur de mes jambes et à la capacité de mes poumons, mais pour les utiliser, il me fallait un terrain praticable, car je n'avais pas le pied montagnard. Ah, posséder ici un bon poney africain d'air! J'accélérai le mouvement et quittai mon arête pour m'élancer sur la lande avant qu'une forme humaine surgisse de la crête derrière moi. Je franchis un torrent et arrivai sur une grande route qui reliait 2 vallées. Devant moi s'étendait une vaste étendue de bruyère dont le sommet était couronné par un maigre plumeau d'arbres. Au-delà du fossé qui longeait la route, il y avait un portillon donnant sur un sentier envahi d'herbes. Il conduisait vers une petite butte de lande. J'escaladai le talus et suivis le sentier. Au bout de 100 mètres, sitôt hors de vue de la grande route, l'herbe cédait à un chemin très convenable, entretenu avec un soin apparent. Nul doute que ce chemin conduisait à une habitation, et j'eus l'idée de le suivre. Jusque-là, ma chance ne m'avait pas abandonné, et la meilleure occasion m'attendait peut-être dans une maison isolée. En tout cas, il y avait là-bas des arbres, et par conséquent, je serais à couvert. Quittant le chemin, je m'engageai dans le lit du torrent qui coulait sur ma droite. La fougère y poussait dru, et les berges surélevées formaient un écran avantageux. Ma prudence était justifiée, car je n'eus pas plus tôt gagné ce creux qu'en me retournant, je vis la meute surgir au sommet de la colline d'où je venais de descendre. Je cessai alors de me retourner. Je n'en avais plus le loisir. Je courais le long du torrent, me baissant aux endroits découverts, et la plupart du temps pataugeant dans l'eau peu profonde. Je parvins à un jardin envahi d'herbes folles, dans lequel se trouvaient des restes de tourbes empilées, devant une maisonnette abandonnée. Puis j'arrivai dans une prairie fraîchement entretenue, et aussitôt après à la lisière d'un bosquet de sapins incliné par le vent. De cet endroit, à une centaine de mètres sur ma gauche, je vis de la fumée s'échappant de la cheminée d'une maison. Je quittai le torrent, franchis un autre talus, au-delà duquel, sans m'y attendre, je me retrouvai sur une pelouse d'aspect rustique. Je m'assurai d'être hors de vue de la meute, laquelle n'avait pas encore dépassé la première butte de la lande. La pelouse était mal entretenue, non pas taillée à la tondeuse mécanique, mais à la faux et ornée de massifs de rhododendrons broussailleux. Des coqs de bruyère, oiseaux qu'on voit peu dans les jardins, s'envolèrent à mon approche. En face de moi, j'avais la ferme typique des environs, à laquelle était accolée une annexe prétentieuse blanchie à la chaux. À cette aile avait été rajoutée une véranda vitrée. À l'intérieur, je remarquai un gentleman âgé qui m'observait avec bienveillance. Je franchis la bordure de gravier grossier et pénétrai dans la véranda par la porte entr'ouverte. L'intérieur formait une pièce agréable, vitrée d'un côté, couverte de livres de l'autre. D'autres ouvrages étaient visibles dans la pièce suivante. Sur le sol, faisant office de table, des vitrines, comme on en voit dans les musées, pleines de monnaies et de bizarres ustensiles en pierre, étaient installées. Au milieu de la pièce, assis à un bureau américain, devant des papiers et des volumes ouverts, se tenait l'affable vieil homme. Le visage rond et brillant, comme celui de Mr. Pickwick, de grosses lunettes sur le bout du nez, il avait le dessus du crâne aussi lisse et dégarni qu'un cul de bouteille. À mon entrée, il ne fit pas un geste, mais haussa placidement les sourcils, attendant que je prenne la parole. Il n'était guère aisé, en 5 minutes, d'expliquer à un inconnu qui j'étais et pourquoi j'avais besoin de son aide. Je n'essayai pas. L'œil de cet homme me parut si vif et si perspicace que je fus incapable de trouver mes mots. Je restai à le fixer en balbutiant. « Vous avez l'air bien pressé, mon garçon, » dit-il avec calme. D'un signe de tête, je désignai la fenêtre. Par une trouée dans le bosquet, elle donnait sur la lande et révélait à 1 mile de distance plusieurs rabatteurs qui avançaient à travers la bruyère. « Ah, je vois, » dit-il, et, s'emparant d'une paire de jumelles marines, il examina tranquillement les individus. « On fuit la justice, c'est ça ? Eh bien, nous verrons cela en temps utile. En attendant, je m'oppose à voir mon domicile envahi par ces lourdeaux de policiers municipaux. Entrez dans mon cabinet, vous y verrez 2 portes en face de vous. Prenez celle de gauche et enfermez-vous. Vous y serez en parfaite sécurité. Et ce personnage étonnant se remit à écrire. Je suivis ses instructions et me trouvai dans une petite chambre noire à odeur de produits chimiques, éclairée uniquement par une étroite lucarne tout en haut du mur. La porte s'était refermée derrière moi avec un déclic métallique, telle une porte de coffre-fort. Une fois de plus, je rencontrai un asile inespéré. Néanmoins, je ne me sentais pas tout à fait à mon aise. Il y avait dans ce vieux gentleman quelque chose qui m'intriguait, qui m'effrayait presque. Il avait été trop aimable, trop accueillant, trop empressé. On eût dit qu'il m'attendait. Et son regard m'avait paru terriblement pénétrant. Aucun bruit ne me parvenait dans cette pièce obscure. Rien n'empêchait que les policiers fussent en train de fouiller la maison, et dans ce cas, ils voudraient savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Je m'armai de patience et tâchai d'oublier la faim qui me tourmentait. Puis je considérai ma situation sous un aspect plus sympathique. Le vieux gentleman pourrait difficilement refuser de me donner à manger, et je me mis à songer à un déjeuner. Des œufs au lard me suffiraient à la rigueur, mais il me faudrait tout un quartier de lard et une demi-douzaine d'œufs. Et tandis que cette perspective me mettait l'eau à la bouche, un déclic se fit entendre et la porte s'ouvrit. Je me retrouvai au grand jour et aperçus dans la pièce qu'il nommait son cabinet le maître de maison assis dans un fauteuil. Il me considérait d'un œil scrutateur. « Sont-ils partis ? » demandai-je. « Ils sont partis. Je les ai convaincus que vous aviez franchi la montagne. Je ne veux pas que la police s'interpose entre moi et quelqu'un dont je suis enchanté de faire la connaissance. Voici une matinée privilégiée pour vous, monsieur Richard Haney. » Tandis qu'il parlait, ses paupières tressaillirent et parurent s'avancer un peu au-dessus de ses yeux gris perçants. Dans un éclair, je me rappelais l'expression de Sculler me décrivant l'homme qu'il redoutait le plus au monde. D'après lui, c'était un homme dont les yeux s'encapuchonnaient à volonté, tels ceux d'un faucon. Et je compris que je m'étais jeté tête baissée dans le quartier général ennemi. Mon premier élan fut d'étrangler cette vieille canaille et de prendre le large. Il parut deviner mon intention, car il me sourit doucereusement et, d'un signe de tête, me désigna la porte derrière moi. Je me retournai et vis deux gardes qui me tenaient en joue avec leurs revolvers. Ils savaient mon nom, mais ne me connaissaient pas de vue, et cette réflexion, en me traversant l'esprit, m'inspira une faible lueur d'espoir. Je répliquai avec brutalité. « Que voulez-vous dire ? Qui est celui que vous appelez Richard Haney ? Je m'appelle Hensley. » « Tiens, tiens, » fit-il, souriant toujours. « Mais, bien entendu, vous avez plusieurs noms. Nous n'allons pas nous chicaner pour un de plus ou de moins. » Je m'étais ressaisi et m'avisais que ma tenue, sans veste, ni gilet, ni col, ne me trahissait du moins pas. Je pris mon air le plus bourru et haussai les épaules. « Je comprends que vous allez me livrer pour finir, et j'appelle ça un coup fourré. Bon sang ! Je voudrais n'avoir jamais croisé cette maudite auto. Tenez, voici l'argent, et que le diable vous emporte !» Et je jetai sur la table 4 sous. Il écarquilla un peu les yeux. « Oh que non ! Je n'ai pas l'intention de vous livrer. Mes amis et moi, nous avons un petit compte à régler en particulier avec vous, voilà tout. Vous en savez un peu trop, monsieur Richard Haney. Vous êtes un acteur assez convaincant, mais il vous reste des progrès à faire. Il parlait avec assurance, mais je voyais le doute poindre dans son esprit. Ah, pour l'amour de Dieu, assez de blabla, m'écriai-je. Tout est contre moi. Je n'ai eu que des ennuis depuis mon débarquement à Leith. Quel mal y a-t-il à ce qu'un pauvre diable affamé ramasse un peu d'argent trouvé dans une carcasse d'automobile? Voilà tout ce que j'ai fait, et pour cela je suis poursuivi depuis 2 jours par ces foutus policiers sur ces foutues montagnes. J'en ai vraiment assez. Vous pouvez faire ce que vous voudrez de moi, mon vieux. Ned Hensley jette l'éponge. Je vis que le doute se renforçait. Il me demanda: Voulez-vous avoir l'obligeance de me détailler tous vos derniers faits et gestes? J'en suis incapable, patron, fis-je sur le ton pleurnichard d'un authentique vagabond. Je n'ai rien eu à me mettre sous la dent depuis 2 jours. Donnez-moi d'abord un morceau à manger et je vous dirai tout. Ma faim devait se lire sur mon visage, car il fit signe à l'un de ses gardes. On m'apporta un bout de pâté froid et un verre de bière. Je les engloutis avec une avidité bestiale, ou plutôt avec l'avidité de Ned Hensley, car je jouais mon personnage. Au beau milieu de mon repas, il s'adressa tout à coup à moi en allemand, mais je levai vers lui un visage aussi expressif qu'un tas de pierres. Puis je lui dis ce que j'avais fait. Comme quoi, une semaine auparavant, j'avais débarqué à Leith d'un navire d'Archangel. Je faisais route par l'intérieur des terres pour aller rejoindre mon frère à Wigton. Je me trouvais à court d'argent. Je laissais entendre que c'était à la suite d'une virée et j'étais absolument à sec lorsque je tombai sur une ouverture dans une haie et, regardant au travers, j'avais aperçu une grosse voiture dans le torrent. Étant descendu pour voir de quoi il retournait, j'avais découvert 3 souverains sur le siège et un autre sur le plancher. Il n'y avait personne aux environs, ni aucune trace du propriétaire. Aussi, j'empochai la monnaie. Mais d'une façon ou d'une autre, la justice était après moi. Quand je voulus changer un souverain chez un boulanger, la femme se mit à crier au voleur. Un peu plus tard, tandis que je me débarbouillais dans un torrent, je faillis être pris. Je ne m'échappai qu'en abandonnant ma veste et mon gilet. Ils peuvent reprendre leur argent, m'écriai-je, pour le bien que ça m'a rapporté. Ces profiteurs ne s'en prennent jamais qu'aux pauvres bougres. Tenez, si c'était vous, patron, qui avez trouvé les souverains, personne ne vous aurait rien dit. Vous mentez bien, Hannay, me dit-il. Cela me mit en rage. Arrêtez de me mener en bateau, nom d'un nom. Je vous répète que je m'appelle Hensley, et que de ma vie je n'ai jamais entendu parler de ce Hannay. J'aurais encore préféré la police à vous, avec vos Hannay et vos larbins à pistolet. Mais non, patron, je retire ce que j'ai dit. Je vous remercie vraiment pour la nourriture, et je vous serai reconnaissant de me laisser filer maintenant que la voie est libre. De toute évidence, il était fort embarrassé. Il faut savoir qu'il ne m'avait jamais rencontré, et mon aspect devait différer considérablement de mes photographies. À supposer qu'il en ait eu une en main. À Londres, j'étais un jeune homme très chic et bien habillé. Et ici, je n'étais qu'un vulgaire vagabond. Je n'ai pas l'intention de vous laisser partir. Si vous êtes en effet qui vous prétendez, vous aurez bientôt l'occasion de me le prouver. Si vous êtes qui je crois que vous êtes en réalité, je pense que vous ne verrez plus longtemps la lumière du jour. Il fit tinter une clochette. Et un troisième domestique apparut sur la véranda. Faites démarrer la Lanchester. J'en ai besoin dans 5 minutes, dit-il. Nous serons 3 pour le déjeuner. Puis il me regarda fixement, et cette épreuve fut la plus éprouvante de toutes. Il y avait quelque chose d'effrayant et de démoniaque dans ses yeux froids, méchants, inhumains et de la plus infernale intelligence. Il me fascinait comme ceux d'un serpent, et j'éprouvais la vive tentation de me livrer à sa merci et de lui offrir ma collaboration. Mais si vous tenez compte des sentiments que toute cette affaire m'inspirait, vous comprendrez que cette impulsion ne pouvait être que physique et résulter d'un cerveau hypnotisé et dominé par une volonté plus forte. Je réussis cependant à tenir bon et même à ricaner. « Vous saurez qui je suis la prochaine fois, patron. »« Karl, » fit-il en allemand à l'un de ses hommes, « mettez cet individu dans la réserve jusqu'à mon retour. » Vous me répondrez de lui. Je fus emmené hors de la pièce, un revolver à chaque tempe. La réserve était une pièce humide située dans ce qui fut l'ancien corps de ferme. Mes geôliers verrouillèrent la porte et je pouvais les entendre traîner des pieds en montant la garde dehors. Il n'y avait pas de tapis sur le sol irrégulier et rien d'autre pour s'asseoir qu'un banc d'écoliers. Il y faisait noir comme dans un four, car les fenêtres étaient obturées par des volets massifs. À tâtons, je me rendis compte que le long des murs, des caisses, des barils et des sacs pleins d'une matière dense étaient empilés. Cela sentait le moisi et l'abandon. Je m'assis dans ces fraîches ténèbres, tout à fait désespéré. Le vieux était parti en auto chercher les deux canailles qui m'avaient interrogé la veille. Eux, même s'ils m'avaient vu sous les apparences du cantonnier, ne pourraient manquer de me reconnaître, car j'étais dans la même tenue. Que pouvait bien faire un cantonnier à 20 miles de son chantier, et poursuivi par la police? Une question ou deux révélerait mon identité. Il était probable qu'ils aient vu Turnbull, Marmy aussi sans doute. Selon toute vraisemblance, ils remonteraient jusqu'à Sir Harry, et tout leur deviendrait aussi clair que de l'eau de source. Quel espoir me restait-il dans cette maison perdue sur la Londe, avec ses 3 bandits et leurs gardes armés? Je songeais à regret aux policiers en train de patauger à ma recherche dans la montagne. Eux, du moins, étaient des compatriotes et d'honnêtes gens. Ils seraient plus miséricordieux que ces vampires étrangers. De toute façon, ils ne m'auraient pas écouté. Ce vieux démon aux paupières d'oiseau de proie s'était débarrassé d'eux promptement. Je supposais qu'il avait monnayé quelque arrangement avec le commissariat, dans le genre passe-droit de ministère qui lui accordait pleine liberté de conspirer contre l'Angleterre. Voilà où nous mène l'aveuglement politique de ceux qui dirigent notre vieux pays. Les 3 hommes devant revenir pour déjeuner, il ne me restait plus que quelques heures à patienter, ce qui revenait à attendre la mort, car je ne voyais aucun moyen de me sortir de là. J'enviais la force de caractère de Scudder, car je reconnais sans détour que le courage me manquait. La seule chose qui me permettait de tenir, c'était la colère. Je bouillais de rage en pensant à la façon dont je m'étais fait avoir par ces espions. J'espérais au moins pouvoir tordre le cou de l'un d'eux avant d'être mis à mort. Plus j'y songeais, plus ma fureur augmentait. À la fin, n'y tenant plus, je me levai pour faire le tour de la pièce. Je secouai les volets, mais ils étaient verrouillés, je ne parvins pas à les ébranler. Du dehors me parvenait le caquettement assourdi de poules au grand soleil. Puis je tâtonnai les sacs et les caisses. Je ne pus ouvrir ces dernières. Les sacs semblaient remplis d'espèces de biscuits pour chiens parfumés à la cannelle. Mais en faisant le tour de la pièce, je découvris sur le mur une poignée qui méritait un examen plus minutieux. C'était la porte d'un placard, ce qu'on nomme une resserre en Écosse, et elle était fermée à clé. Je la secouai, elle me parut peu résistante. À défaut d'une autre occupation, je déployai mon énergie contre cette porte, obtenant une meilleure prise en entortillant mes bretelles sur la poignée. Elle céda enfin avec un craquement qui risquait d'alerter mes gardiens. J'attendis un instant, en écoutant le silence. Puis je me mis à explorer les rayons du placard. Il contenait une foule d'objets bizarres. Je retrouvai dans mes poches de pantalon une ou deux allumettes bougies et en craquai une. Elle s'éteignit presque aussitôt, mais à sa lueur, j'eus le temps d'apercevoir dans un coin un petit tas de lampes électriques de poche. J'en saisis une. Elle fonctionnait. Muni de cette lampe, je continuai mes investigations. Il y avait des flacons et des caisses de substances aux odeurs suspectes, des produits chimiques évidemment, destinés à des expériences, et aussi des rouleaux de fil de cuivre fin et des bandelettes innombrables de soie imperméabilisées. Il y avait une boîte de détonateurs et une provision de cordelettes pour la mise à feu. Puis, tout au fond d'un rayon, je trouvai un emballage brun de carton épais et, à l'intérieur, une caissette en bois. Je réussis à en arracher le couvercle. Elle contenait une demi-douzaine de petits cubes grisâtres de 2 pouces de côté chacun. J'en pris un et constatai qu'il s'effritait aisément entre les doigts. Puis je le flairai et y portai la langue. Je n'avais pas été ingénieur des mines pour rien, et au premier coup d'œil, j'avais reconnu de la lanthanide. Après quoi, je m'assis pour réfléchir. Avec un de ces blocs, je pouvais faire exploser la bâtisse en 1000 morceaux. En Rhodésie, j'avais vu le produit agir, et je savais sa puissance. Mais, par malheur, mes connaissances étaient imprécises. J'ignorais la proportion exacte et la bonne manière de l'amorcer. Pour ainsi dire, je n'avais qu'une vague idée de la charge à utiliser, car je ne l'avais pas manipulée par moi-même. C'était une chance, cependant, la seule possible. Le risque était grand, mais en regard, il y avait la certitude absolue de ma mort. Si je m'en servais, les chances étaient, selon mon appréciation, de 5 contre 1 pour m'envoyer jusqu'au sommet des arbres, mais si je ne m'en servais pas, selon toute probabilité, avant la tombée de la nuit, j'occuperais une fosse de 6 pieds dans le jardin. Voilà comment il fallait envisager la suite. L'une et l'autre de ces perspectives n'étaient pas réjouissantes, mais quoi qu'il en soit, il me restait encore une carte à jouer pour moi et pour mon pays. Le souvenir de Scudder me décida. Ce fut probablement là le pire moment de mon existence, car je ne vaux rien pour ces résolutions prises de sang-froid. Prenant mon courage à deux mains, je repoussai les horribles doutes qui m'assiégeaient. Je n'y pensais plus, tout simplement, et pour achever de me convaincre, j'affectai de penser que je me livrais aux préparatifs de la nuit de la conspiration menée par Guy Fawkes, où sont allumés des feux de joie et des feux d'artifice. Je pris un détonateur et j'y fixai quelques mètres de mèche. Puis je pris le quart d'un bloc de lanthenite, l'enfouis sous l'un des sacs proches de la porte, dans une fissure du plancher, et y fixai le détonateur. Je soupçonnais la moitié des caisses de renfermer de la dynamite. Pourquoi pas, en effet, puisque le placard contenait de si puissants explosifs. Dans ce cas, nous ferions un merveilleux vol aérien, moi, les domestiques allemands, et un bon arpent du terrain alentour. En outre, comme j'avais presque tout oublié concernant la lanthenite, il se pouvait que l'explosion mît à feu les autres blocs du placard. Cela ne menait à rien d'imaginer le pire. Le risque était effroyable, mais je devais le prendre. Je me blottis au-dessous de l'appui de la fenêtre et allumai la mèche. Puis j'attendis une minute, deux. Il régnait un silence de mort, troublé par le seul frottement des lourdes semelles de mes gardiens et le paisible caquettement des poules au dehors. Je recommandai mon âme à Dieu et me demandai si, dans 5 secondes, une onde de feu énorme sembla jaillir du plancher et m'enveloppa un instant d'une atmosphère de fournaise. Puis le mur en face de moi s'illumina d'un jaune éblouissant et vola en éclats dans un fracas de tonnerre qui me mit la cervelle en bouillie. Quelque chose tomba sur moi, me heurtant le coin de l'épaule gauche. Je crois bien qu'alors je perdis conscience. Ma syncope dura tout au plus quelques secondes. Je me sentis asphyxié par d'épaisses vapeurs jaunâtres et, me dégageant des décombres, je me relevai. Quelque part derrière moi, je sentis de l'air frais. Le cadre de la fenêtre était tombé et, par la brèche irrégulière, la fumée se déversait au soleil de midi. J'enjambai le linteau brisé et me trouvai dans une cour emplie d'un brouillard dense et âcre. Je me sentais fort mal en point, prêt à défaillir, mais je pouvais encore me déplacer et je m'éloignais de la maison à l'aveuglette et en titubant. Un ruisseau qui alimentait un moulin coulait dans un chenal en bois de l'autre côté de la cour. Je tombai dedans. L'eau fraîche me ranima et je retrouvai suffisamment mes esprits pour songer à poursuivre ma fuite. Je remontai le ruisseau en pataugeant dans le visqueux capitonnage verdâtre et parvins à la roue du moulin. Arrivé là, je me glissai par l'ouverture de l'axe à l'intérieur du vieux moulin où je me laissais choir sur un lit de paille. Un clou accrocha le fond de ma culotte et j'abandonnai un lambeau de mélange bruyère. Le moulin ne servait plus depuis longtemps, les échelles tombaient de vétusté et les rats avaient rongé de grands trous dans le plancher du grenier auquel j'avais accédé. Un malaise me prit, un vertige tourbillonna sous mon crâne tandis que mon bras et mon épaule gauche semblaient frappés de paralysie. Je regardai par la fenêtre et vis la maison encore surmontée d'un brouillard et de la fumée s'échappant d'une fenêtre de l'étage. J'avais, Dieu me pardonne, mis le feu à la bâtisse, et de l'arrière de celui-ci me parvenaient des cris confus. Mais je ne pouvais m'attarder. Évidemment, le moulin n'était pas une cachette fiable. Pour peu que l'on me cherche, on remonterait naturellement le ruisseau, et je ne doutais pas un instant que l'on me rechercherait dès que l'on constaterait que mon cadavre n'était pas dans la réserve. À travers une seconde fenêtre, j'aperçus un vieux colombier de pierre qui se dressait de l'autre côté du moulin. Si je pouvais y parvenir sans laisser de traces, j'y trouverais peut-être un refuge. En effet, si mes ennemis me pensaient capables de me déplacer, ils s'imagineraient que j'avais pris le large et me chercheraient à travers la lande. Je descendis tant bien que mal par l'échelle vermoulue, en éparpillant de la paille derrière moi pour dissimuler mes traces. Je fis de même sur le plancher du moulin et sur le seuil où la porte ne tenait plus qu'à des gonds branlants. Jetant prudemment un œil à l'extérieur, je vis qu'entre moi et le colombier, il y avait un chemin d'aller où mes pas ne laisseraient aucune trace. De plus, on était dissimulé de la maison par les bâtiments du moulin. Je traversai furtivement ce terrain, gagnai l'arrière du colombier que je me mis à escalader. J'ai rarement entrepris quelque chose de plus pénible. La douleur de mon épaule et de mon bras lançait terriblement, et j'étais si malade et nauséeux que je risquais à tout moment de tomber. Mais je réussis quand même. En utilisant des pierres en saillie et des brèches entre les moellons, ainsi qu'une solide tige de lierre, je finis par atteindre le sommet. Un petit parapet l'entourait, derrière lequel je trouvais suffisamment d'espace pour m'allonger sur le dos. Et, pour conclure tous ces exercices, je sombrais dans un nouvel évanouissement. Je repris connaissance avec un violent mal de crâne et le soleil me brûlant le visage. Un long moment, je restais immobile, car ces abominables fumées semblaient avoir liquéfié mes membres et embrumé mon cerveau. De la maison me parvenaient des éclats de voix gutturaux et le bruit de moteur d'une auto à l'arrêt. Le parapet présentait une petite brèche. Je me traînais jusque-là. Le point de vue plongeait sur une partie de la cour. Des personnes surgirent, un domestique, la tête emmaillotée d'un pansement, et un jeune homme en culotte de golf. Ils avaient l'air de chercher quelque chose. Ils se dirigèrent vers le moulin. Tout à coup, l'un d'eux aperçut le lambeau de mélange bruyère accroché au clou et appela son compagnon. Tous deux regagnèrent la maison et en ramenèrent deux autres pour examiner le lambeau de tissu. Je reconnus la face ronde du vieil homme qui m'avait arrêté tout à l'heure et crus distinguer aussi l'homme aux aisément. Tous étaient armés de revolvers. Durant une demi-heure, ils mirent le moulin sans dessus-dessous. Je les entendais donner des coups de pied dans les tonneaux et soulever les lames pourries du plancher. Après quoi, ils ressortirent et restèrent juste au-dessous du colombier à discuter avec vivacité. Le domestique au pansement reçut une verte semonce. Je les entendis secouer la porte du colombier et, un instant, je m'imaginais avec terreur qu'ils allaient monter. Mais ils se ravisèrent et regagnèrent la maison. Tout au long de cet après-midi brûlant de soleil, je restais à rôtir sur la plateforme. Je souffrais surtout de la soif. J'avais la gorge sèche et pour comble, j'entendais le bruissement frais de l'eau dans le ruisseau du moulin. Je suivis des yeux le petit cours d'eau à travers la lande et le remontai en pensée jusqu'en haut du val où il devait surgir d'une source rafraîchissante, ourlée de fougères et de mousse. J'aurais donné 1000 livres pour y tremper mes lèvres. J'avais vu sur une belle perspective de la lande. J'aperçus l'auto s'éloigner rapidement avec 2 passagers et un individu à dos de poney galoper vers l'est. Je pensais qu'il se lançait à ma poursuite et leur souhaitait bien du plaisir dans leurs recherches. Mais je remarquai autre chose de plus intéressant. La maison se trouvait presque au sommet d'une élévation de la lande qui couronnait une sorte de plateau. Le seul point plus élevé était la grande montagne à 6 miles de là. Au sommet véritable de ce plateau, comme je l'ai déjà dit, se trouvait un bouquet d'arbres, formé en majeure partie de sapins, avec quelques frênes et hêtres. Depuis le colombier, j'étais un peu au-dessus du sommet des arbres, et je pouvais voir ce qu'il y avait au-delà. Au lieu d'être massif, le bois formait une simple couronne, à l'intérieur de laquelle s'étendait un ovale de gazon vert qui ressemblait fort à un vaste terrain de cricket. Je ne mis pas longtemps à en deviner l'usage. C'était un aérodrome secret. L'endroit avait été fort judicieusement choisi. À supposer en effet que quelqu'un vit un avion descendre derrière les arbres, il croirait qu'il poursuivait son vol au-delà de la colline. Comme l'endroit se trouvait au sommet et au milieu d'un vaste amphithéâtre, un observateur quelconque, à quelque endroit qu'il se trouve, conclurait que l'avion avait poursuivi son vol. Seul quelqu'un de très proche s'apercevrait que l'avion, sans dépasser la colline, s'était posé au milieu du bois. Et un observateur situé sur la grande montagne, plus élevé, pourvu qu'il soit muni d'une longue-vue, aurait peut-être découvert la vérité. Mais il n'y venait que des bergers, lesquels n'emportent pas avec eux de lunettes d'approche. En regardant tout au loin, je distinguai une ligne bleue que je savais être la mer. J'enrageai de penser que nos ennemis possédaient cette tour de guet secrète pour espionner nos voies de navigation. Je m'avisai ensuite que si l'avion revenait, j'avais toutes les chances d'être découvert. Aussi, durant tout l'après-midi, je restai couché, implorant le retour de l'obscurité, et je me réjouis de voir enfin le soleil décroître derrière les montagnes de l'ouest et la brume du soir recouvrir la lande. L'aéroplane revint tardivement. Le crépuscule était déjà très avancé lorsque je perçus le bruissement de ses ailes, et je le vis descendre en vol plané vers la piste d'atterrissage au milieu du bois. Des lumières s'agitèrent un moment, et il y eut beaucoup d'allées et venues du côté de la maison. Puis la nuit tomba, et le silence se fit. Grâce à Dieu, l'obscurité était dense. La lune, à son dernier quartier, ne se lèverait qu'à une heure avancée. Vers 9 heures, autant que je pus en juger, assoiffé, je commençai la descente. Ce n'était pas facile, et de plus, arrivé à mi-chemin, j'entendis s'ouvrir la porte à l'arrière de la maison et vis la lueur d'une lanterne sur le mur du moulin. Durant quelques minutes d'angoisse, je restai suspendu aux lierres et priai pour que l'individu, quel qu'il fût, ne vienne pas vers le colombier. Enfin, la lumière disparut, et je me laissai glisser le plus doucement possible sur le pavé de la cour. Je rampai à plat ventre, dissimulé derrière un muret de pierre, jusqu'au rideau d'arbres qui entourait la maison. Si j'avais su comment m'y prendre, j'aurais mis l'avion en marche. Mais il fallait me résoudre à l'inutilité de toute tentative de ce genre. Comme je ne doutais pas qu'il y eût une protection quelconque autour de la maison, je m'engageai dans le bois, sur les mains et les genoux, en tâtant avec précaution chaque pouce de terrain devant moi. C'était fort avisé, car je tombai bientôt sur un fil de fer tendu à 2 pieds du sol. Si j'avais buté contre, il n'aurait pas manqué de déclencher une sonnerie dans la maison, et c'en était fait de moi. 100 mètres plus loin, je trouvai un autre fil ingénieusement disposé sur la berge d'un petit cours d'eau. Plus loin, c'était la lande, et au bout de 5 minutes, j'étais enfoncé dans la fougère et la bruyère. Peu après, je contournai le rehaut de la colline, par le petit ravin d'où coulait le ruisseau du moulin. 10 minutes plus tard, je trempai ma figure dans la source et je m'abreuvai de cette eau bienfaisante. Mais je ne fis vraiment halte qu'après avoir mis une bonne douzaine de miles entre moi et cette maudite demeure.